Bonsoir. Donc, je voudrais intervenir en tant que professeure et militante syndicale qui voit un petit peu l'impact des technologies, en particulier du numérique, dans l'éducation nationale. Et je voulais réagir, en fait, la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'est qu'il y avait, en termes de possibilités de résistance, il y avait quelque chose qui était, à mon sens, trop peu présent ou pas présent clairement dans ce qui avait été expliqué. C'était tout ce qui concernait ce que nous sommes quand nous travaillons, nous, dans le monde du travail, en fait. Et les exemples qui ont été montrés, notamment par Célia Izoard, c'est des exemples de gens qui ont résisté, comme elle l'a dit, en désertant, en quittant leur métier, parce que leur métier n'était plus en conformité avec leurs valeurs. Et donc leur façon de résister, ça a été d'arrêter leur métier. Mais moi qui suis enseignante et qui tient à mon métier et qui en ai une haute conception et qui tient aussi à mon métier parce qu'il est profondément lié avec le service public et que c'est très important pour moi, je ne me vois pas résister à l'emprise du numérique actuel dans l'éducation nationale en désertant. Ça m'est impossible, moralement, puis plus simplement, ça m'est difficile parce que je ne me vois pas faire autre chose. Voilà, je ne sais pas faire autre chose, j'ai un métier, je le possède et je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc ma question c'est, dans ce cadre-là, comment construire des résistances dans le monde du travail pour des gens qui veulent résister en défendant leur métier à cette emprise technologique ? Et en particulier à l'emprise du numérique, et qui ne veulent pas déserter, en fait. Mais je ne mets pas du tout de mots péjoratifs à déserter, hein. Je dis juste qu'il y a des situations différentes. Et nous, dans l'éducation nationale, on est confronté à ça en ce moment. On est confronté à cette difficulté d'avoir un métier qui change parce qu'on veut numériser l'école. Voilà. Et donc, on essaye de construire des résistances. Pour moi, ça passe notamment par une implication beaucoup plus forte de ces questions dans les organisations syndicales. Voilà. Ça, c'est parce que je suis militante syndicale. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus.
Si j'ai donné l'impression de lancer un appel universel à la désertion, c'est un malentendu. C'est pas du tout mon intention. Au contraire, enfin, il se trouve qu'il y a des gens qui ont déserté et qui ensuite vont attaquer dans des sphères qu'ils ont précédemment désertées, parce qu'ils continuent à défendre des choses. Mais les gens peuvent faire autrement. Et moi, il me semble que dans les luttes, l'important, c'est de partir de là où on est et de qui on est. On n'a pas besoin nécessairement de se transformer en quelque chose, quelqu'un d'autre, pour lutter, au contraire. Et en plus, je pense qu'on a déjà fait le constat qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs par rapport à l'invasion du numérique, c'est de défendre des métiers. Ça peut être ça, de défendre des pratiques, des choses qu'on aime et qui vont être complètement pourries par le nouveau logiciel qui se confond avec une nouvelle pratique de management ou qui va parasiter complètement les rapports avec les autres. Et c'est le cas dans l'éducation. Alors là, il faut que la parole tourne parce que je pense qu'il y aura d'autres personnes qui auront des choses à dire là-dessus. Oui, aujourd'hui, il y a un enjeu immense et très important à fédérer une lutte des enseignants, des parents d'élèves, au moins, à minimum ça, contre la numérisation de l'école et qui va de pair avec la marchandisation de l'école, en fait, puisque c'est Microsoft, en fait, la numérisation de l'école aujourd'hui. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est le groupe, le collectif Écran Total, qui compte plusieurs professionnels de l'éducation, qui est une sorte de réseau qui a publié notamment l'appel de Beauchastel contre la numérisation de l'école. Mais je sais qu'il y a aussi eu plusieurs formations en lien aussi avec Écran Total et Sud, le syndicat Sud, sur ces questions-là, justement pour essayer de s'associer pour créer quelque chose. Donc est-ce que d'autres gens ont des pistes là-dessus ? On peut faire part d'initiatives.
Moi, il se trouve que je suis enseignant en fin de carrière Et on m'a vraiment, vraiment cassé les pieds avec les histoires de cahiers de texte en ligne et Pronote et tous ces trucs-là, les cahiers, les tableaux numériques, ça. Et j'ai dit, ben, basta, quoi. Voilà. Mais j'ai pu le dire parce que je suis en fin de carrière. Je pense que je serais en début de carrière, je ne sais pas. Et puis déjà, si j'étais en début de carrière, je serais déjà formaté. Je pense que je n'aurais pas même pas envie de dire, voilà, les digital natives, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Nous, enfin moi, j'ai l'avantage d'avoir de la bouteille. Hein. Tout à l'heure, quand je disais que la technocritique, c'est vraiment tout un travail, toute une pensée qui s'élabore dans le temps, moi, j'ai construit ma réflexion dans le temps au fil des années, et justement, confronté à ce genre de situation, mais c'est absurde, cette histoire de Pronote, machin, de trucs. Donc j'ai dit non, merde. Voilà. À ma hiérarchie, enfin, j'ai pas dit merde comme ça, mais en substance, c'était ça. Je dis, alors, il y a des ruses, mais qui sont des ruses purement individuelles. C'est, on joue au couillon, quoi. Enfin, je sais pas comment ça marche. Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a une autre remarque ou un autre questionnement dans la lutte contre la numérisation de l'école, ou on passe à un autre sujet s'il n'y a personne qui est... Voilà.
Juste un petit témoignage sur le même sujet. Catherine, qui est à mes côtés, ma compagne, est docteur en informatique, ingénieure de recherche à l'INRIA. Elle s'est retrouvée en détachement comme enseignante de mathématiques à l'éducation nationale, à un moment donné.
Parce que je l'ai demandé, bien sûr.
Oui, oui. Mais, et elle a tenu à mener ce discours à son inspecteur, mais immédiatement, l'inspecteur a fait un rapport et le détachement a été arrêté. Elle a été mise à l'écart de l'éducation nationale pour avoir tenu ce discours. Je termine, tu pourras prendre le micro après. Moi, par ailleurs, je suis... Non, mais il n'y a pas de cacophonie. Moi, par ailleurs, je suis élu local, maire d'une ville de 5000 habitants, où il y a 2 collèges, 2 lycées, 3 écoles, président d'une communauté de communes. Et donc, tout récemment, c'était la période du grand débat. Les préfets écrivent aux maires en disant « Messieurs les maires, faites des débats ». Donc, on organise ensemble, dans cette ville, un débat sur le numérique à l'école. Avec son expérience, avec la mienne, avec la référence du livre de Biwix, d'autres sources, d'autres témoignages, voilà. Ça se voulait être une conférence débat. Donc j'essaye évidemment de toucher les personnes a priori les plus intéressées, les enseignants et les parents d'élèves, la commune. Donc je demande aux différents principaux, proviseurs et directeurs d'école s'ils veulent bien diffuser en interne l'info. Certains principaux ou proviseurs l'ont fait plus ou moins ou pas du tout, mais à la limite, ça ne me regarde pas. Par contre, l'école primaire, dont le maire est quand même en grande partie gestionnaire et responsable d'une partie du fonctionnement, j'ai gentiment demandé aux directrices d'école primaire si elles voulaient distribuer un petit tract que je leur diffusais pour inviter les parents d'élèves. Et l'inspecteur a refusé, leur a interdit de le distribuer aux parents d'élèves. Voilà. Alors je ne vous raconte pas toute la suite, ça serait un peu long, mais voilà. C'est juste le témoignage sur les résistances aujourd'hui de l'éducation nationale dès qu'on veut parler de cette question. Alors en ce moment, je suis très en résistance, je dois dire, par ailleurs, parce que j'ai donné un permis de construire à une cabane de gilets jaunes, ce qui a beaucoup déplu au préfet. J'ai pris un arrêté anti-LBD dans la commune. Enfin, voilà, la période est compliquée, on va dire.
Pardon, on ne va pas monopoliser la parole. Je voulais juste dire qu'effectivement, à l'éducation nationale, essayer de résister de l'intérieur, j'étais en détachement donc à une 50aine d'années. J'étais considérée comme étant stagiaire, alors que j'ai quand même enseigné pendant 10aine d'années dans le supérieur par ailleurs. Et du coup, effectivement, j'étais soumise à des évaluations par des professeurs conseillers pédagogiques qui venaient m'examiner dans ma classe, etc. Tout s'était toujours très bien passé. Sauf effectivement une fois que j'ai eu dit à l'inspecteur que le numérique éducatif, je trouvais que ça n'apportait rien, au contraire, et je lui ai donné des arguments de docteur en informatique, donc quand même un petit peu de poids. Et alors ça ne lui a pas plu du tout. Et je me suis payée après, plusieurs mois après, donc sur le coup il a rien dit, hein, mais plusieurs mois après j'ai pris connaissance d'un rapport qui avait été écrit à l'issue de cette inspection, et c'était une catastrophe. Et les 3 autres rapports des conseillers pédagogiques, qui étaient très favorables, avaient disparu. Ils avaient disparu. Donc là, maintenant, je suis sous le coup d'un arrêté de fin de détachement à l'initiative exclusive de ma hiérarchie à l'éducation nationale, pour incompétence notoire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il faut quand même le savoir. Voilà.
Il y avait une question juste là, devant, au 2e rang.
Merci. Oui, donc Bertrand Séné, moi je suis économiste, écologiste. C'est un peu difficile à concilier, mais on essaye. Je pense qu'on sera d'accord sur une chose, c'est que critiquer, puisque là on est sous science critique, ça ne veut pas dire être contre. Ça veut dire chercher à discerner les bienfaits et les éventuels méfaits. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas ni excessivement enthousiaste, ni systématiquement opposé. Donc ça suppose qu'on cherche à discerner si telle ou telle technique ou technologie apporte vraiment une amélioration, un bienfait. Donc là, juste pour donner un exemple, le métro, quand il a été créé, je pense que c'était très très critiqué, il devait y avoir mille raisons de le détester. Aujourd'hui, on considère que c'est plutôt quelque chose d'assez... enfin, pas mal, quoi, je pense. Mais bon, on pourrait avoir un débat. Même chose sur le vélo électrique, on peut avoir un débat là-dessus. Globalement, je pense que quand même c'est un bienfait par rapport à l'automobile. Voilà. Mais encore une fois, on peut avoir un débat là-dessus. La question moi, qui me paraît importante, c'est est-ce qu'on choisit une technologie en faisant ce calcul de bienfait, méfait, ou parce qu'on est fasciné par la technologie? Or, il se trouve qu'il y a énormément de technologies, effectivement, qui d'abord nous fascinent, et donc on fonce dedans et on l'achète parce que voilà, c'est un truc... Le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on met au milieu de la maison, puis on lui parle et puis il résout tous nos problèmes. C'est ça, un assistant. Voilà. Franchement, on ferait un débat là-dessus, je crois que voilà, ce serait assez amusant parce que je ne pense pas que ce soit un énorme progrès dans la vie humaine. Et de la même manière, je pensais, on en a parlé, hein, du véhicule autonome, où on peut parler des SUV aujourd'hui. Est-ce que c'est un progrès d'être 30 cm au-dessus par rapport aux voitures berlines? Je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin, enfin je suis même sûr de l'inverse. Mais ce qui est vraiment dommage en fait par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on devrait à chaque fois qu'il y a une technologie qui est introduite, avoir une structure, un endroit où on puisse débattre. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du Linky. Ben moi, j'ai essayé de m'intéresser au Linky. Je suis incapable de me faire une opinion, je suis obligé de faire confiance aux uns et aux autres. Sauf que je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Et c'est comme l'histoire qu'on nous a racontée cet après-midi, l'histoire des étoiles. Ouais, si vous me racontez qu'il y a 1 milliard d'étoiles, je vous crois. Et la peinture, si je dis qu'elle est sèche, ben je vérifie. Ben dans le cas du Linky, moi, je suis désolé, je suis incapable de savoir. Donc il faudrait avoir des structures qui permettent vraiment d'avoir des débats, de vérifier, d'avoir des contestations et qu'entre scientifiques, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme si... il y en a qui pouvaient imposer ce qu'ils voulaient, puis il y a les autres qui contestent, mais finalement, ils n'ont pas de pouvoir, et donc le truc se fait. Donc, il y a vraiment un problème d'infrastructure, je dirais, de l'introduction de la technologie. Et justement, pour finir par rapport à ça, c'est... En fait, la façon dont c'est conçu aujourd'hui, c'est... Il y a une technologie qui émerge. Ça on ne pourra jamais l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a un inventeur, à un moment donné, qui trouve un truc et tout. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais ce qu'on pourrait éviter, c'est qu'il y ait une entreprise qui s'en empare, et que le seul élément qui fasse qu'elle se développe ou pas, c'est qu'ils arrivent à la vendre. Ça ne devrait pas du tout être comme ça. Ça devrait être d'abord un débat démocratique, et il faut qu'on crée les structures pour ça, et puis de dire, bah oui, cette technologie, ok, on la développe, on y va, ou alors, au contraire, on ne le fait pas. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on propose et qu'on arrive à structurer le truc de façon intelligente, sage, etc. Ma proposition.
Je vais répondre rapidement avant de vous laisser répondre, parce que du coup je quitte un peu mon rôle d'animateur, mais je prends part au débat. Je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je te tutoie puisqu'on se connaît, on s'est croisé dans différentes conférences, etc. Et on peut pas avoir une position, comme tu dis, médiane, en disant ah, il faudrait voir les bons côtés, les mauvais côtés, etc. Cette position médiane, elle, à mon avis, elle ne tient pas, parce que du coup elle est pas... On doit retourner à la racine, aux symptômes, aux racines du mal. Et donc ça reprend le vieux débat de dire, et toi qui es écologiste et quand on voit le désastre écologique en cours, de se dire, est-ce qu'il faut donc des meilleures machines, des machines plus efficaces, plus performantes, ou est-ce qu'il faudrait moins de machines? Moi je suis dans le camp de ceux qui disent qu'il faut moins de machines. Il faut donc décélérer, décroître, etc. C'est ma vision. Et donc là, c'est tu poses la question en disant il faut analyser chaque technique et se dire ah, et à chaque fois qu'on nous propose une nouvelle technologie, se dire ah, celle-là, elle est pas trop mal, elle est un peu moins bien, etc. Ben, moi, j'ai une vision qui est plus tranchée que la tienne. En tout cas, je me pose plus cette question, mais après, je laisse répondre.
Pour qu'il existe une structure de débat, il faut bien qu'il y ait une volonté de débat. Là, on a eu un témoignage. Allez parler à l'inspecteur de madame. Vous ne pouvez pas nous organiser un petit débat là sur l'utilité des techniques dans le... Et la réponse, elle est hautement significative. Elle est carrément ultra violente. La réaction, elle est tyrannique. Alors là, pour le coup, tyrannie technologique, là, on y est. Hein, d'accord. Alors, je renvoie à une citation d'un ingénieur, je crois, Denis Gabor. Tu pourrais me renseigner. C'était un ingénieur... ça te parle Gabor, la loi de Gabor, non? Gabor disait, en 64, je me souviens de l'année, il disait que tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement fait. C'est ça, Thierry? Tu connais ça? Tu ne connais pas? Denis Gabor. Voilà. Tout ce qui est techniquement... C'est possible? On peut le faire? Allez, on le fait. Qu'est-ce que tu veux mettre du débat là-dessus? Il n'y a pas de débat. On n'arrête pas le progrès. On ne l'arrête pas parce qu'on ne le discute pas. C'est indiscutable. Quand je dis que la technocritique... c'est une posture totalement inaperçue. On est là, c'est bien. Mais on est que dalle. On est rien. Toi, tu faisais tout à l'heure état de toutes les publications. Très bien. Mais ça peut donner l'illusion qu'il existe un grand. On est dans l'entre-soi. On est dans l'entre-soi là. On est rien. Mais auprès de mes propres amis, auprès de ma propre épouse. Je me censure. Elle me dit, mais tu veux donner encore une définition à la technique? Et je dis, c'est pas moi. La technique a changé de statut, c'est pas moi. Et oui, bah, il faut bien tenir compte de ce changement de statut. Alors j'arrête, hein, je veux pas faire de crise conjugale, mais auprès des proches, ça me fait plaisir d'être avec vous, parce que je me sens bien avec vous, parce que, voilà, avec mes amis, on parle d'autre chose. Il y a une véritable solitude intellectuelle. Alors, ça ne veut pas dire souffrance, on s'accommode. Il n'y a pas de souffrance, on s'accommode, c'est comme ça.
Voilà. Alors, moi, je veux répondre à la manière dont vous présentez un petit peu la chose. Vous dites, il y a quelqu'un qui invente quelque chose, il y a des industriels qui reprennent derrière, un peu normal. Moi, je pense que ça ne correspond pas tout à fait au type de société dans laquelle on vit. Il y a eu plusieurs modèles. Et en France, par exemple, on a eu un modèle assez centralisé, celui des 30 Glorieuses, hein, qui a vraiment rendu programmatique la hausse de la productivité et la recherche, financer une recherche d'État, etc., qui avait des avantages, notamment pour les chercheurs, mais qui a programmé l'existence, le déferlement technologique, en réalité. Notamment via la recherche militaire dans la plupart des pays riches. Aujourd'hui, si on regarde un peu comment ça se passe au niveau des Silicon Valley, c'est assez parlant. Enfin, récemment est paru un livre qui s'appelle Le capitalisme de plateforme, qui décrit très bien ça. C'est l'ensemble du capital accumulé, du capital excédentaire, qui, dans notre monde, est quand même assez considérable, qui presque totalement irrigue les sociétés de haute technologie via les fonds d'investissement. Donc ça veut dire que l'ensemble du capital accumulé va favoriser la montée en puissance et l'élaboration de nouvelles technologies qui sont toutes plus ou moins les mêmes, qui correspondent toutes au même imaginaire, au même type de projet et qui incluent toutes le numérique, l'électronique à l'intérieur. Donc c'est nos forces sociales, les ressources financières, les fonds publics qui sont tout entière tendue vers un but, le reste étant relativement marginal. Ah oui, il faut encore financer les crèches. Bon, bah, quel fardeau. Bon, d'accord, ok. Bah, voilà, moi je le vois un peu plus comme ça. C'est-à-dire que le cœur du capitalisme aujourd'hui, c'est l'avènement de nouvelles technologies.
Oui, il y a une question au fond de la salle. Mais je me permets une petite précision. Vous avez vu que la séance est filmée. Donc vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez aussi refuser d'être filmé, si vous le voulez. Il suffit de le dire pendant que vous prenez la parole. Voilà, merci.
En fait, en entendant différentes interventions tout à l'heure, parce que j'étais pas là cet après-midi, il y a une chose qui me frappe, c'est que donc finalement, enfin in fine, il me semble, Joël, que vous avez dit entre les lignes quelque chose qui va dans cette direction, c'est-à-dire au fond l'enjeu, c'est pas forcément les technologies en tant que telles. C'est des manières de les concevoir, c'est des manières de penser. Donc, vous n'avez bizarrement pas utilisé le terme de paradigme, qui est un mot très à la mode aujourd'hui sur les questions liées aux enjeux écologiques, les changements de paradigme. Et donc, je pense que c'est intéressant aussi de passer par là pour prendre un peu de distance en réfléchissant aussi sur, au-delà de la discussion et les critiques de la technologie, les technologies s'insèrent dans des enjeux et des contextes plus larges. Et je pense qu'une chose qui serait intéressante, puisqu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup sur la question de notamment les paradigmes cartésiens, mon intervention c'est aussi prendre de la distance, qui m'a semblé que vous interrogiez aussi la réflexion, l'anticapitalisme, le capitalisme, la technologie existait avant le capitalisme. Et du coup, si on déconstruit en fait l'évolution de certaines formes de paradigmes, on s'aperçoit qu'ils sont historiquement plus anciens que des discussions éventuellement sur la technologie, et il me semble qu'en repassant par là, ça permet aussi de mieux réfléchir et interroger les enjeux technologiques. Donc, effectivement, je ne vais pas simplifier, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, les réflexions sur la critique cartésienne par rapport à des visions plus systémiques, voire holistiques, ça, je pense que passer par là et repartir de ces réflexions-là, ça peut être intéressant pour interroger la technologie. Cette technologie, finalement, ça semble être aussi assez logiquement, si j'ose dire, assez conforme à une réflexion de type cartésienne. Donc, si on veut déconstruire les enjeux autour de la technologie, c'est intéressant de revenir en arrière et de voir à partir de quel moment une pensée cartésienne, qui elle-même était dans un contexte historique spécifique, a pu contribuer au développement d'un certain imaginaire technologique qui ensuite s'est accéléré dans le monde du capitalisme, à l'époque capitaliste, mais aussi grâce à la possibilité d'ancrer ces technologies par l'usage de ressources énergétiques qui étaient abondantes et qui ont permis de en fait, changer tous les dispositifs anthropologiques, c'est-à-dire notamment avec le pétrole, de pouvoir se déplacer, s'autonomiser, arriver à des technologies qui finalement, il y a des gens qui disent, pour simplifier, grâce à la technologie, on est capable chacun de produire des effets qui sont deux fois plus importants que si on n'avait pas les technologies. En fait, c'est des technologies basées sur ces énergies. Les technologies existaient avant, mais elles n'avaient pas les mêmes effets et n'avaient peut-être pas le même impact anthropologique. Donc la question serait, est-ce qu'au fond, le problème, c'est un saut de nature dans les technologies ? Est-ce que c'est la technologie comme une prolongation d'un esprit et d'une manière de penser cartésienne ? Donc ça serait une manière intéressante de déconstruire les enjeux technologiques et de les critiquer en se demandant comment on pourrait développer des technologies qui sont donc pas en droite ligne d'une vision cartésienne, qui ne sont pas adossées à des ressources énergétiques illimitées apparemment, ou des ressources énergétiques sales, et donc aller vers une vision de la décroissance où la technologie est un enjeu, une façon de structurer la société ou de faciliter certaines choses en l'extrayant du paradigme cartésien et au recours à des énergies abondantes et problématiques. Donc j'espère que ce que je dis est relativement clair, parce que c'est vraiment très abstrait.
Non, j'ai décodé.
Voilà.
Alors, d'abord, je n'ai pas utilisé l'expression changement de paradigme précisément parce qu'elle est à la mode. Bon. En revanche, il y a Bernard Charbonneau, il avait une belle expression, il parlait de grande mue. Voilà. Je trouve que c'est parlant. La grande mue, alors le saut de nature, la grande mue, elle tient au, je l'ai dit, je le répète, au changement de statut de la technique, qui était un moyen qui devenait une finalité. Ça, c'est un point important. Je n'ai pas dit que l'idéologie technicienne, elle était antérieure à l'idéologie capitaliste, j'ai dit qu'elle était plus déterminante, ce qui n'est pas pareil. Parce qu'on est vraiment dans l'œuf et la poule. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, pendant la pause, moi, je ne me prononce pas la question, mais je pense que l'idéologie technicienne est vraiment façonne l'idéologie capitaliste. Et puis, pour... comment... oui, on parle de déterminisme. C'est plus déterminant. Bon, mais pour être plus, pour utiliser une image, quand avec le temps, comme j'étais fatigué, je suis fatigué d'expliquer cette histoire de ce sacré transfert à la technique. Alors j'utilise une image. Bon, on va sourire un peu. Vous savez, vous connaissez peut-être, il y a un proverbe chinois qui dit quand tu montres la lune du doigt à l'imbécile, l'imbécile le regarde de doigt. Eh bien, moi j'inverse la chose. Elle est là, la grande mue. C'est que les choses, c'est quand un technophile me montre un écran plat, moi je regarde le doigt, je lui dis mais pourquoi tu me le montres? Il faut inverser. J'ai commencé mon exposé en disant que la technocritique, c'est la critique d'une façon collective de penser et de vivre. Elle est là. Le sacré transféré à la technique, c'est tiens, je te transfère. Ouais. Alors, un dernier point, tu peux me... autre chose pour expliciter, parce que moi je reproche, je cite souvent cette phrase, mais je reproche à Ilul, pour le coup, de pas avoir été jusqu'au bout. Pendant longtemps, j'ai pensé que ce qui faisait blocage dans la compréhension de cette formule, c'était le mot sacré. Et du reste, je le pense toujours, parce qu'on se dit religieux, tout ça, oh, je ne veux pas entendre parler de religieux, tout ça. Mais en fait, je crois que le vrai mot, le vrai blocage, c'est sur le mot transfert, parce qu'au fond, transférer depuis où? Ah bon, je transfère le sacré sur la technique, très bien, mais tu le transfères d'où? Et là, je pense que Ellul a commis une erreur d'appréciation assez grave, enfin, c'est lourde de conséquences. Je pense que quand on transfère quelque chose, on transfère depuis l'inconscient. Jorion en a parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé quand Jorion a dit se connaître soi-même. Et il avait utilisé cette expression après avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, après avoir parlé de psychanalyse. Se connaître soi-même en profondeur et comprendre l'époque, ça va vraiment ensemble. J'en suis intimement convaincu. Intimement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, pour faire avancer le débat technocritique, il faut véritablement prendre en conscience, en considération que l'inconscient est une donnée avec laquelle il faut composer. Or, l'inconscient, le concept a eu son heure de gloire au moment de la psychanalyse, avec Freud au tout début du XXe siècle, et puis c'est passé à la trappe. Pourquoi? Parce que ça a été écrasé par le behaviorisme et les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est? Une technique. Parce qu'on a souvent aussi reproché à Ellul, oui, vous dites que la porte de sortie pour pas tomber dans le piège de la sacrée transférée, il faut être chrétien. Et Ellul n'a jamais dit ça. Lui, c'était sa position, il avait sa foi chrétienne qui le libérait de toutes sortes d'aliénations. Mais ce qu'on peut lui reprocher, moi je lui reproche, parce que moi on me dit souvent, toi tu jures que par Ellul, mais moi j'ai plein de choses à reprocher à Ellul. Et notamment, il était tellement en rage contre Freud, à juste titre, parce que je crois que Freud avait une vision déterministe, d'accord, et donc, il a jeté, à mon avis, le bébé avec l'eau du bain, il a déconsidéré la psychanalyse. Parfois, il utilise souvent l'adjectif inconscient. L'adjectif, oui, mais pas le nom. Pour lui, l'inconscient, il n'a jamais voulu savoir ce que c'est. Et c'est vraiment, pour moi, le nœud du problème. Il y a transfert du sacré depuis l'inconscient. On projette. Et si je peux juste faire encore une autre métaphore, si vous voulez, c'est comme l'expérience amoureuse. Être amoureux et aimer, c'est deux choses différentes. Tomber amoureux, tomber, c'est se casser la gueule. Être amoureux, c'est pas du tout aimer. C'est aimer. Il y a beaucoup de narcissisme dans l'état amoureux. C'est on croit aimer l'autre, et en fait, on aime l'image qu'on s'en fait. On projette.
Une question, justement.
Moi, je suis un peu perdue, là. Je ne sais plus bien ce que je voulais dire, mais c'était à partir de ce que vous disiez, parce que ça a été un petit peu rejeté. Et je me dis que c'est peut-être un moment nécessaire pour approcher, pour avoir un petit peu... élargir un peu, même de se poser les questions comme ça. C'est bien, c'est pas bien. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Hein. Mais c'est bien, c'est pas bien. Non, ça m'embête. Mais il y a peut-être un moment où on arrive à trouver quand même quelque chose qui a tourné suffisamment en rond pour aller un petit peu plus loin. Et parce que c'est par rapport à l'entre-soi, quand tu dis, Joël, qu'on est dans l'entre-soi, oui, mais si on peut pas rejeter une façon comme ça aussi de vouloir approcher les choses. Et du coup, je rebondis sur le mot communauté qui me déplaît profondément, parce que c'est exactement ça, une communauté. Voilà. C'est ça que je voulais dire. J'ai été même dans le titre même, là, aujourd'hui. Ce mot communauté me repousse.
J'ai bien dit que j'étais provocateur. Annoncé la couleur. Mais je me suis bien empressé de parler. C'était d'ailleurs de préciser que je parlais de communauté de pensée et pas d'autre chose.
Vas-y. Oui, c'est juste une petite idée par rapport à cette dame qui a témoigné, spécialiste en informatique et travaillant dans l'éducation nationale et malmenée par son inspecteur. Je me dis qu'au lieu d'annoncer la nouvelle sur ce méchant inspecteur, il serait utile de mettre sur Internet le nom et le prénom de cet inspecteur, son adresse privée, le code digital pour pouvoir rentrer chez lui. Et si possible, toutes sortes d'autres renseignements, sa photo essentiellement, l'immatriculation de sa voiture, et toutes sortes d'informations utiles pour que, et livrer ça sur ce qu'on appelle ça maintenant les réseaux asociaux, quelque chose comme ça, enfin, utiliser Internet pour que la nouvelle soit diffusée au maximum et laisser en libre service pour plein de types d'actions. Je sais pas, on peut taguer sa maison, taguer sa voiture, on peut le suivre dans la rue, on peut faire des petites pièces de théâtre autour de lui quand il marche dehors. Enfin, vraiment, c'est la tactique du naming and shaming, vraiment désigner ces gens et arrêter d'être dans l'anonymat. Par exemple, j'entends souvent dans des réunions militantes, le procureur a dit ceci. Il faut jamais dire le procureur. Il faut dire monsieur, truc, machin, qui habite là, etc. Il faut vraiment désigner les gens parce que ça permet de mener des actions. Voilà.
Une autre question, juste derrière, deuxième rang, tu me disais. Juste monsieur, là.
Oui. C'était juste pour dire que, en fait, on situe bien donc dans faire le lien entre la première et la deuxième table ronde. Donc, on est bien dans une logique de retarder, en tout cas, ou d'empêcher ou de contrecarrer l'effondrement. Donc, en fait, toutes les initiatives qui contribuent à gagner du temps sur cette affaire-là, en fait, sont plutôt bonnes à prendre. C'est-à-dire que l'idée d'un débat public pour trancher ou retarder des décisions qui, de toute façon, sont généralement favorables au secteur économique, enfin à l'économie en général, sont toujours bonnes à prendre. Donc oui, sur des conférences de citoyens qui permettent effectivement de créer un débat argumenté, contre-argumenté, avec une formation de citoyens, etc., avec des experts du côté A et du côté B qui permettent une délibération par des non-spécialistes, mais pour le coup des citoyens éclairés par des arguments, des contre-arguments. Ça peut être une manière de retarder et de gérer des processus qui peuvent paraître effectivement nous dépasser. Après, ouais, sur la critique, finalement, science critique, alors la difficulté, je trouve, par exemple, il y a eu une critique de la quantification. Mais alors, critiquer la quantification, je trouve, c'est un problème parce qu'on s'enlève des outils. Si on dit, voilà, on a une empreinte écologique qui est insoutenable, il faut corriger le tir, il faut diminuer notre consommation par 3, 4, 5, selon où on se situe. Ces données-là, bon, c'est des données quantitatives qui sont quand même utiles à trouver des repères individuels et collectifs dans la sphère de consommation et l'impact qu'on a sur notre environnement. Ces éléments-là, à mon sens, on ne peut pas se priver de ce possible-là, c'est-à-dire qu'il faut quantifier nos usages et il va falloir les corriger et se donner des repères. Alors on peut rêver d'une éducation populaire, les soirées comme celle-là sont fort intéressantes, je vais dire, mais elles sont quand même, ça a été dit, un petit peu en milieu réservé, entre guillemets, enfin voilà, pas très connues, quoi. Voilà. Et puis même quand on regarde nos propres comportements individuels, c'est hyper dur de faire évoluer des comportements. Ça peut prendre des années, des décennies pour faire évoluer des comportements alimentaires, par exemple. Enfin, voilà. Donc, voilà, on peut miser sur l'éducation, on peut miser un peu plus sur la contrainte, sur la loi, sur le politique, en fait, hein, qui, normalement, est censé, justement, mettre des limites, donner des règles, voilà, resituer les enjeux, prendre des délibérations qui soient contraignantes, quoi. Alors, bien sûr, on l'a un peu oublié parce que le politique, aujourd'hui, a quand même démissionné. On est dans un monde libéral qui s'interdit d'interdire, hein. Mais, voilà, donc, si on veut décroître, il va falloir borner, il va falloir... Il va falloir objectiver, il va falloir quantifier et il va falloir frustrer, quoi. Donc, en fait, frustrer, voilà, c'est un mal pour un bien, on est d'accord, hein. Mais en expliquant. Mais voilà, donc, je sais pas, voilà, la critique de la quantification, attention, et puis, voilà, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on raisonne dans un modèle économie de marché comme horizon unique. Il y a eu d'autres tentatives qui n'ont pas forcément abouti, donc voilà, sur ce qu'on aurait pu souhaiter. Mais il y a d'autres modèles de vision économique possibles autour de l'économie distributive, autour de voilà d'une création monétaire réglementée. Enfin voilà, il y a quand même des possibles autres que l'économie de marché qui n'est pas le seul horizon quand même des possibles en matière d'échange d'argent, de voilà d'économie quoi. Donc et qui peuvent servir un projet de coup de décroissance quoi.
Sur la critique de la quantification, il y a un récent papier de Vincent De Victor qui est paru sur le site de la revue Terrestre, qui justement la mise en nombre, le chiffrage de l'Anthropocène. Et il y a une phrase dans le papier qui dit à un moment le fait de chiffrer brouille, le fait de chiffrer l'Anthropocène finalement empêche son déchiffrage. C'est-à-dire, à force d'avoir de tout calculer, d'avoir des nombres, les nombres parfois sont trop gros, nous écrasent et nous empêchent ensuite de réagir. Et je trouve cette réflexion assez intéressante. Et après, bien sûr, il y a un principe de réalité. On a des indicateurs avec des chiffres. Et bien sûr, on peut écrire, on peut enquêter, on peut décrypter. Effectivement, ça nous donne des clés de repère. Mais par contre, le fait de tout quantifier et d'arriver à standardiser, numériser, d'avoir une enveloppe de chiffres qui nous entoure, ça c'est quelque chose de déplorable, puisqu'elle nous coupe quelque part du réel en prétextant qu'elle va tout chiffrer. Enfin,
juste une petite remarque là-dessus, parce que là c'est vrai que ça nous emmènerait, si on commence à partir sur un débat sur les questions de quantification, etc., ça nous amènerait loin, mais le fait qu'aujourd'hui on soit obligé, par rapport à la catastrophe écologique en cours, hein, qui est en cours réellement, qu'on soit obligé de s'appuyer sur des données chiffrées, des évaluations scientifiques, etc., prouve, alors c'est un constat, hein, prouve aussi l'éloignement croissant dont la plupart des gens, y compris pour une bonne partie d'entre nous, ont été éloignés de la nature. Parce que tous les gens, bon, il y en a de moins en moins dans nos sociétés, mais qui ont un rapport sensible, voire pour certains professionnels, à la nature, le constatent. C'est-à-dire, j'étais par exemple au Pays Basque il y a une quinzaine de jours, justement, pour parler de ces questions-là. Il y avait des gens, justement, qui sont encore en lien très fort avec la nature, des bergers, des gens qui avaient eu, enfin, qui s'occupent de potagers, mais voilà, pas le petit potager urbain, qui ont vraiment, voilà, qui s'occupent de culture, etc. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a pu voir au travers des chiffres qui nous ont été montrés tout à l'heure, ou qu'on peut voir par ailleurs, sur la disparition des espèces, dans tout l'ensemble de données dont on dispose, eux en ont une expérience sensible. Alors après, évidemment, on est dans un monde où, s'il n'y a pas de données, si on ne chiffre pas, si on ne quantifie pas, ça n'a aucune valeur. Mais ça, je dirais que ça traduit déjà le fait... Alors après, on peut dire oui, mais on est obligé de s'inscrire là-dedans parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est le monde d'aujourd'hui. On est obligé de le constater. Mais cela prouve quand même que tout ce qui pouvait relever de l'expérience sensible et d'autres manières de traduire finalement un rapport au monde ont été de plus en plus marginalisés. Et c'est vrai qu'il suffit de parler avec des pêcheurs. Je pense à Daniel Cérézuel, qui est un pêcheur et qui donc est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur Bernard Charbonneau, hein, qui l'a bien connu, explique ça très bien, que il suffit d'aller dans une rivière, il suffit de pêcher pour voir qu'il y a eu des transformations importantes quasi irréversibles et qui auront des conséquences très fortes. Et là, juste de par l'expérience ancienne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment capable de l'entendre, ça. Et on le voit dans tous les débats. Bon, là, ce n'est pas le cas ce soir, mais on peut intervenir à certains endroits, sur certains sujets comme ceux-là ou d'autres, et immédiatement, les gens vont nous demander des données. C'est-à-dire que là, on voit que le nombre a triomphé par rapport à, finalement, au sensible, à la poésie, ou même par rapport à une pensée articulée, avec une argumentation. Elle ne vaut rien par rapport à de la donnée. Oui. Pour preuve, à des moments, on peut voir des gens en permanence en train d'essayer de demander donc, des références, des données, etc., en train de les vérifier en temps réel, comme si dans un débat, il ne pouvait pas y avoir un minimum de rapport de confiance et réfléchir plutôt ensemble, même si on n'est pas d'accord, ou à des arguments, à des contre-arguments. Non, c'est immédiatement les données qui doivent parler. Et il suffit qu'une donnée qu'on donne soit fausse pour qu'immédiatement, finalement, toute notre argumentation s'effondre, puisque les personnes pensent que la vérité est dans le nombre.
Oui.
On va prendre des grappes de... Vous n'êtes... Sans le micro, on va avoir du mal à... Mais on va pouvoir continuer le débat aussi après. Non, mais on va pouvoir continuer le débat. Maintenant, comme le temps, voilà, le temps s'écoule et voilà, la soirée va s'achever, on va prendre une grappe de trois questions ou remarques, mais si possible, soyez concis dans votre expression. Merci. Du coup, ici, il y en a deux à côté. Le jeune homme est devant. Alors voilà. Et oui, quatre du coup. Monsieur devant.
Merci.
Là et là. Et là.
Oui, bon, je commence. Juste deux points rapides. Un sur l'illusion du choix technologique. Moi, j'ai passé une assez longue carrière maintenant là-dedans, dans ce milieu-là, hein, le milieu des startups et de l'intelligence artificielle. Les choix sont faits en amont, c'est-à-dire les gens qui financent ça sont les militaires. Donc quand il y a la guerre, il y a beaucoup d'argent et donc ça va beaucoup plus vite. Et quand il n'y a pas de guerre, les fonds passent assez majoritairement par les militaires. En intelligence artificielle, c'est particulièrement vrai parce que le leadership jusqu'à maintenant a été pris par les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est l'armée qui décide des endroits où on va financer la recherche. Juste pour prendre un petit exemple. On connaît tous la voiture automatique qui marche plus ou moins bien, mais qui est en mouvement vers ça. Son origine, c'est ce qui s'appelle les Grand Challenge de la DARPA. La DARPA, c'est l'organisme qui finance la recherche, donc militaire. Et l'idée du Grand Challenge, c'était d'avoir une voiture qui pouvait faire un trajet dans un désert américain. Ça a duré pendant deux ans. Deuxième année, ils ont pensé que c'était bon. Ils ont pris le vainqueur de ça. C'était le laboratoire de Stanford, le labo d'IA. Et ils l'ont fait financer par le capital risque. Donc il y a un jeu à deux entre les militaires qui ont énormément, énormément, énormément d'argent et le capital risque qui est, comme tu disais, c'est le surplus de capital qui vient s'investir là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau de rentabilité extrêmement bon. Quand les capital risqueurs sont bons, ce qui n'est pas le cas en France, mais aux US, ils ont beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est le choix est fait en amont. Maintenant, je trouve qu'on a assez peu parlé, on a parlé de résistance, c'est une sorte de réflexe de résister, il faut résister, mais en même temps, c'est un peu fatigué. Et on ne gagne pas toujours, voire pas souvent. La meilleure résistance, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc on a peu parlé de ce qu'on construit, de quelle société on propose et de comment nous, on propose de gérer le problème de la technologie. Hein. Et il me semble qu'il y a... alors c'est pas, je ne suis pas du tout expert là-dessus, malheureusement, mais il y a quelques exemples qui viennent assez rapidement. Moi, j'étais tombé sur les Amish. Alors les Amish, ça paraît un peu baroque, c'est les gens avec leur vieux chapeau, etc. Mais à regarder d'un peu plus près, et je pense qu'il y a un vrai travail à publier là-dessus, il me semble. Ça semble être une société contemporaine, c'est-à-dire c'est pas des gens avec des plumes dans la tête, etc. Ils sont tout à fait contemporains, qui gèrent ces choix technologiques, qui les gèrent avec succès et qui est en développement. Alors je mets à l'écart l'aspect religieux de la chose. Pardon ? Il ne faut pas le mettre à l'écart, mais disons que ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet sur comment on organise. Il y a des exemples qui semblent plus ou moins fonctionner. Il y a peut-être le travail de Bookchin. J'ai vu qu'il y avait un livre qui était présenté là avec le communalisme libertaire. Et en fait, il y a les questions d'échelle. C'est-à-dire que si on se dit qu'il faut choisir au niveau national, on va partir sur les commissions d'experts, les comités d'éthique. Tout ça est une grosse blague. Ces gens n'arrêtent pas de reculer, de reculer, de reculer. Et ils se font plaisir, mais ça ne fonctionne pas. Donc, si on pouvait avoir un tout petit peu de discussion sur qu'est-ce qu'on propose, je trouve que ça serait génial.
Oui, moi, je voudrais dire que je regrette qu'on a... Il y a un sujet sur lequel il n'y a eu aucun mot pendant la soirée, c'est la question du nucléaire. Et pourtant, de mon point de vue, il y a eu, à un moment donné, un mouvement antinucléaire significatif et qu'on pouvait très bien dire technocritique, même si ce n'était pas du tout les termes de l'époque. Et je trouve dommage qu'on ne l'évoque pas parce que je pense que ce n'est pas... du tout un sujet qui est dépassé aujourd'hui. Je pense que le modèle nucléaire, de toute manière, il y a encore des gens aujourd'hui qui bataillent pour le maintien du nucléaire. On devrait quand même s'interroger sur ce qu'est devenu ce mouvement antinucléaire et la perte de sa dimension, je dirais moi, technocritique, au profit d'une gestion militante strictement anti-pollution, même si c'est des pollutions en perspective. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, il y a encore des gens qui militent aujourd'hui, malgré la crise du nucléaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, du point de vue de tous les scandales qu'il y a actuellement sur les questions de cuves, de l'échec de l'EPR, etc. Bon, il n'y a pas de force qui s'oppose à ça, alors que ce serait le moment... le moment d'enfoncer le clou. Mais je voulais aussi dire que le modèle économique, le modèle capitaliste, je veux dire, qui s'est dessiné sur la question du nucléaire, qui était un modèle centralisateur, qui s'appuie aussi sur la volonté de puissance des États, ce modèle-là, il n'a pas complètement disparu parce qu'il y a un modèle capitaliste d'un autre genre, avec les nouvelles technologies, le capitalisme de plateforme, etc. Les deux choses fonctionnent ensemble. Je veux dire, en particulier parce que les nouvelles technologies et les alternatives fonctionnent toutes sur l'idée du développement de l'électricité. Hein, et c'est tout le problème du tout électrique qui est posé aujourd'hui. Et qui se pose, y compris aujourd'hui, dans les luttes contre les éoliennes industrielles. Tout ça, c'est des sujets importants et qui devraient, à mon avis, s'accrocher aussi à la critique du tout numérique, etc., qui suppose beaucoup de consommation électrique et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas remis en cause, au moins en France, le système centralisateur. Bien au contraire, je veux dire, le système centralisateur de la production électrique se poursuit et se renforce.
Juste là, oui.
Bonsoir. J'aime autant pas être filmé parce que ça va être... alors j'ai deux questions. Une, est-ce que vous pensez que le système technicien ou le système industriel, enfin, peu importe comment vous l'appelez, est-ce qu'il est réformable ou est-ce qu'il doit être renversé ou s'il faut le pousser un peu dans l'espoir peut-être d'une survie de l'espèce, enfin des espèces, et notamment de l'espèce humaine. Et ma deuxième question, je suis assez étonné, dans les discussions technocritiques, qu'on ne parle jamais, ou si peu, du terrorisme à l'égard de la technique, dont la figure de Una Bomber est assez connue outre-Atlantique, mais en France, pas du tout, je crois. Enfin, peu. Bah, il a été traduit aux encyclopédies des nuisances, je crois que c'est tout. Il y a eu plusieurs traductions aux encyclopédies des nuisances, elle était un peu plus fine. Oui, il y a eu Annie Lebrun qui l'a traduit aussi en 96, je crois. Donc, la question c'est qu'en est-il de la violence et est-ce que le système est réformable ou pas?
Voilà. cherche des exemples contemporains, populaires, de lutte, de mouvements de lutte contre justement la civilisation techno-industrielle. Un ou deux, ce serait pas mal.
Célia, Cédric, Joël. Là, c'est bon, il y a une grappe de quatre questions, donc maintenant on peut répondre. C'était assez dense.
On est tous en panne là. Mais. Bonjour. Pendant qu'ils se concertent, mes collègues. Sur la question du nucléaire, la question c'est la technique. Je l'ai abordé un tout petit peu. La technique ou les techniques. Tant qu'on est sur les techniques, quand on traite les techniques séparément, à mon avis, on perd son temps. Ce qui est important, c'est toute l'idéologie qui porte les techniques. Mais les techniques, on revient toujours sur les usages, ces choses-là. C'est la rationalité, la recherche maximale de l'efficacité en tout domaine. Ça, c'est la bonne question. Mais on peut passer beaucoup de temps sur les OGM, on l'a dit. Je crois que c'est Jean-Baptiste qui a évoqué ça aussi tout à l'heure. On peut passer beaucoup de temps sur les OGM. Je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je pense pas. Bon, il ne faut pas diviser. Si on divise les techniques, la technique règne. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas sectoriser. Il y en a marre. On ne va pas tayloriser ces questions-là. Enfin, ça suffit. Il faut penser globalement la technique. C'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile.
Cédric.
Je reconnais que c'est pas facile.
Cédric.
Alors, bon, il faut distinguer quand même ce qui est de l'ordre de la réflexion et qui en effet doit être plus globale hein, et en effet doit inclure la question du nucléaire, mais doit inclure la question des nouvelles technologies, doit inclure peut-être, je démarrais mon intervention en parlant de mouvements anti-industriels. Alors après, on peut toujours se dire à quel moment est-ce que les choses basculent ? Est-ce que c'est la naissance, je ne sais pas, au XVIIe siècle, des formes de sciences modernes ? Est-ce que c'est le XIXe siècle avec l'émergence d'un capitalisme industriel réel, ce qu'on a appelé les révolutions industrielles ? Est-ce que c'est au XXe siècle, et notamment la fin du XXe siècle, avec ce déploiement des nouvelles technologies qui va finalement s'insérer dans ce large mouvement. Donc c'est toujours le principe, la réflexion entre continuité et rupture. Est-ce que cette histoire est constituée de rupture ou est-ce que tout ça est un mouvement continu ? Donc ça, c'est un débat très très compliqué, enfin très compliqué, très long, peut-être parfois vain, mais important quand même sur lequel il faut réfléchir. Mais en tout cas, c'est sûr que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il faut l'inscrire dans une réflexion plus globale sur la question de la puissance, sur la question de la quantification, sur la question de la rationalisation, de l'industrialisation et aussi du gigantisme de nos sociétés. Parce que, évidemment, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué la question de l'échelle, mais elle est déterminante. Évidemment, elle est déterminante. Par exemple, juste pour donner cet exemple, hein, c'est pas forcément pour lancer un débat là-dessus, mais par exemple, quand quelqu'un dit voilà, on pourrait auto-gérer, je prends un exemple un peu trivial, mais auto-gérer des grandes usines, bon, des gens qui ont une vision finalement très politique de la chose, qui se dit voilà, si on auto-gère, les choses iront mieux. Bon, à partir du moment de toute façon où les choses atteignent un certain seuil, on est obligé de mettre en place des techniques élaborées qui correspondent à cette taille. Donc de toute façon, la question de l'échelle, la question de la taille des sociétés dans lesquelles on veut vivre, la question de la taille des unités de production, on va dire, dans lesquelles on veut travailler, elle est déterminante. Elle est déterminante. Donc c'est sûr qu'on est, pour moi, systématiquement obligé. Et de toute façon, si on regarde l'histoire, par exemple, de ce qui est pour moi décisif, qui est la question de l'information, hein, puisque tout ça, quand on parle de tout ça, c'est la question quand même de l'information, on voit très bien qu'il y a un lien étroit entre la taille des sociétés et le niveau de développement et de technicisation de l'information. La mondialisation qui opère, et aussi un formidable, pas forcément au sens positif, hein, mais déploiement de puissance, de circulation de l'information. Bon. Après, donc, je pense qu'il faut en effet penser globalement. Après, pour ce qui concerne les luttes, en effet, si on veut à un moment traduire dans le réel, dans le concret, les réflexions qu'on mène, on est bien obligé de les porter sur des territoires donnés, sur des questions données. On ne peut pas rester sur la question de la technologie. En elle-même, on est bien obligé à un moment de, comment on pourrait dire, de cristalliser hein, ces réflexions et de créer à des moments des rapports de force, ce qu'on appelle faire de la politique. Donc là, en effet, alors on je pense que Célia avait quand même déjà donné un petit panorama des luttes qui existaient, que ce soit Linky, etc. On parlait aussi du nucléaire. C'est vrai que tout à l'heure, une dame aussi me faisait à la pause, me disait, oui, c'est vrai que vous parlez des nouvelles luttes, mais en fait, il y a toujours les anciennes. Aujourd'hui, on va parler des smartphones, l'intelligence artificielle, mais prenez l'exemple, oui, mais le téléphone portable, par exemple, sur lequel il y avait une critique qui avait été menée, qui était intéressante. À son émergence, on n'en parle plus aujourd'hui. Enfin, bien sûr que le problème, c'est qu'on est face à des phénomènes où les choses paraissent irréversibles, se cumulent et s'accélèrent. Donc c'est sûr que nous-mêmes, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre capacité à réfléchir et agir. Mais on est bien obligé à un moment de concrètement agir quelque part et sur quelque chose. Et c'est là, en effet, que les luttes sur le nucléaire, en effet, n'ont pas disparu. Hein. Notamment, il y a pas mal de luttes, je crois, par rapport à la question de l'enfouissement des déchets. Les ZAD, alors on ne va pas partir sur un grand débat sur les ZAD, mais ou une forme ou une dimension, on peut dire technocritique, je ne veux pas les réduire à ça, puisque peut-être que des gens qui allaient lutter n'auraient pas forcément partagé tous nos points de vue, mais en tout cas, il y a cette dimension-là quand même, hein, contre l'artificialisation de territoire, contre l'accélération du monde. L'aéronautique, par exemple, et aujourd'hui, pour moi, on pourrait prendre l'aéronautique comme exemple ou comme espace de lutte intéressant, puisque on pourrait, je ne dis pas du tout qu'il y en a d'autres, parce que c'est l'accélération du monde, c'est la réduction du monde, c'est les problèmes environnementaux, c'est l'hypermobilité, comme on pourrait aussi questionner les véhicules autonomes, les véhicules autonomes, etc. Après, des résistances, pour revenir tout à l'heure aussi rapidement, la personne qui parlait justement de qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle, dans son école. En effet, la question des métiers, la question des lieux où on travaille, en effet, on peut faire sécession, comme on l'a dit tout à l'heure, déserter, mais on peut aussi essayer de lutter contre l'implantation du numérique, le développement du numérique, le basculement numérique, comme ils disent, qui est en train de s'opérer partout, et notamment à l'école. Et là, on voit qu'immédiatement, on repart sur des rapports de force finalement assez traditionnels, puisqu'on a des directions, l'académie, des inspecteurs, etc., qui vont, soit par conviction, soit parce que finalement ils respectent les ordres, ils respectent finalement les grandes directions qui sont données par le ministère de l'Éducation nationale, vont agir, essayer de convaincre, voire réprimer s'ils n'ont pas réussi à convaincre. Et là, en effet, il y a des billets de lutte. Mais en effet, c'est être dans la marge, et c'est presque, je dirais, qu'on questionne la technologie, être dans la marge de la marge. Puisque une bonne part, enfin selon moi, des mouvements dits d'émancipation, de ce qu'on pourrait appeler, pour aller très vite, la gauche, n'a pas du tout, sur ces questions-là, je pense, pris la mesure des enjeux. Et notamment les syndicats, qui peuvent peut-être commencer, alors je ne sais pas si la personne tout à l'heure qui intervenait est toujours là, qui est une syndicaliste, qui est quelqu'un qui, pour le coup, est à la fois syndicaliste et à la fois un regard critique sur ces technologies, mais je pense que pendant longtemps, les syndicats, et sans doute encore, parce qu'ils sont restés dans ce mythe progressiste, que le progrès social découlerait automatiquement du progrès technique, ils n'ont pas réussi à forcément délier l'un de l'autre, font que aujourd'hui la question sociale et la question de la critique des technologies sont déliées, à nous de les raccorder. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, par des livres, par des interventions, par des combats. Nous, je sais qu'on avait pas mal avec des gens, parce que moi, je suis dans le monde du livre, on avait créé un collectif qui s'appelait Livre de Papier. Quand à un moment, hélas, peut-être, bon, je vais finir juste là-dessus, il y a peut-être quelque chose de positif, puisqu'on avait, au moment, je ne sais pas, vers les années 2012-2013, à un moment, on nous dit, voilà, la moitié des librairies en France seront fermées en 2015. Donc, il y avait un cabinet de conseil qui avait décréter ça à partir de je ne sais quelle analyse, mais ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices qui peuvent marcher dans certains cas. On vous dit, bon, bah, ça va, en économie, c'est bien connu, ça va disparaître, donc les gens s'investissent moins, des fonds ne sont pas levés, et boum, et les choses se passent telles qu'elles. Et vous voyez, on vous l'avait dit. Donc nous, on avait monté un collectif quand on nous parlait de livres numériques, de dématérialisation totale de la chaîne du livre, on avait monté un collectif qui s'appelle Livre de Papier, dans lequel on avait mené une lutte, et on avait essayé de sensibiliser les professionnels, donc libraires, bibliothèques, et éditeurs, auteurs, etc. Bon, finalement, les choses ne se sont pas passées, ou pas passées en tout cas au rythme, parce qu'en effet, c'est compliqué. En effet, il y a, on sait très bien que la Silicon Valley, ses épigones, etc., fonctionnent beaucoup sur l'intox, la promesse. Ils sont tout le temps, c'est ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle les techno-utopies, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, ils dessinent un monde et des promesses permanentes de bonheur, de bien-être, si on les écoutait. Toutes les promesses, tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour nous libérer de toutes les tâches contraignantes et pour aller à l'essentiel, comme ils le disent toujours, on devrait aujourd'hui tous être en train de lire, de s'occuper de nos enfants dans des hamacs, en pleine nature, etc. C'est le monde qu'ils ne cessent de nous décrire depuis un siècle. Hein. Même avant les nouvelles technologies, c'est le monde que le capitalisme... Et on constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Hein. Nous sommes sans cesse pris dans l'urgence, nous sommes sans cesse en état quasiment d'explosion. On voit très bien qu'il y a un malaise social, une anomie, etc. Donc là, il faut nous questionner ce qui s'est passé entre ces promesses et finalement la réalité. Donc c'est déconstruire aussi un discours. Donc voilà, voilà bon, quelques pistes, hein, je finirai là-dessus. Donc pensez à la question de l'échelle, selon moi. Tout le temps, la question de l'échelle. Olivier Rey, par exemple, a écrit sur la question de l'échelle et d'autres. La question de l'échelle, donc la question du niveau de communication, là où on s'inscrit, comment on s'inscrit, hein, quelque part, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu physique, un territoire. Relier la question sociale à la question de la technologie, c'est-à-dire la question des métiers, la question des savoir-faire est pour moi déterminante. Alors, il y a un léger mouvement, il ne faut pas se mentir. C'est un mouvement par rapport à la tendance générale qui est encore très marginale, mais qui mérite d'être souligné, qui est intéressant. C'est tous ces gens hein, qu'on a évoqués tout à l'heure qui vont retourner à des métiers pourtant là contraignants, durs, qui demandent des efforts, qui ne sont pas forcément valorisés. Donc, c'est des gens de profession intellectuelle qui vont aller vers je sais pas, l'ébénisterie, vers la paysannerie, qui vont aller vers un certain nombre de domaines hein, qui sont pourtant... on ne peut plus à contre-courant et qui choisit de faire sécession. On voit qu'on... Alors, ce n'est pas un mouvement forcément massif, mais c'est un mouvement quand même significatif qui est intéressant. Hein, et aussi, et j'en finirai là-dessus, c'est aussi essayer je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, de faire confiance aussi peut-être plus à nos sens et d'être capable de revaloriser l'expérience sensible. Hein, cela passe par le fait d'avoir une vie intérieure, d'avoir des rapports peut-être profonds avec les gens, profonds aussi avec la nature. Par exemple, là-dessus, aux États-Unis, ça a encore été assez peu traduit en France, mais il y a plusieurs livres aux États-Unis qui parlent notamment du rapport entre les enfants et la nature et qui expliquent qu'aujourd'hui, beaucoup de difficultés que les enfants peuvent rencontrer, de maladies psychiques, de difficultés à vivre, etc., sont dus au fait qu'on s'est totalement éloigné finalement de la nature, de cet environnement-là, bon, qui est dû bon, à l'urbanisation, au repli aussi dans le pavillon, dans l'espace, dans le foyer, etc., etc. pour toute une et qui crée aussi un rapport au monde qui crée du mal-être. Donc il y a aussi donc je ne sais pas si restaurer, revaloriser l'expérience sensible ou le sensible. Bon voilà, moi j'en finis là. Voilà, c'est quelques pistes après qui peuvent être chacune d'être travaillées. Donc la lutte. Les questions, réfléchir à la question d'échelle, relier la question sociale, les savoir-faire, les métiers, au savoir-faire et aux métiers, la question du sensible. Voilà, quelques pistes que je lance. Ouais.
Alors, merci pour la synthèse. Je pense aussi que, au-delà de la question d'utiliser l'action directe, la violence et tout ça. Ce qu'on appelle la violence, qui s'exerce souvent contre des objets. Il y a quelque temps, c'était même pas de la violence. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème de formulation et d'amener des questions dans le débat public, tout simplement. Ne serait-ce que le fait que aujourd'hui, par exemple, les syndicats représentent des gens qui sont manifestement complètement malmenés par les nouvelles technologies dans leur boulot. C'est le cas à la SNCF, c'est le cas à la Poste, c'est le cas dans l'Éducation nationale. Ça représente beaucoup de gens, c'est le cas dans les impôts, etc. Et que ça ne se traduit pas en termes de description ou de revendication. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas si difficile que ça. Mais il y a un travail de formulation pour amener des constats et des mots d'ordre dans le débat public. Par exemple, on parle de l'école numérique. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui fait assez facilement consensus chez les gens qui s'intéressent à l'éducation ou qui ont des enfants. Problème que pose la numérisation de l'école. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de revendication du type « Nous exigeons que les 50 millions d'euros que la région s'apprête à mettre dans la numérisation des lycées soient au contraire affectés à l'emploi de personnel supplémentaire. » Alors que c'est quelque chose qui est simple, en fait, et qui ferait assez facilement consensus. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'interroger. Pourquoi ? Et essayer d'assumer ce type de point de vue qui sont parfaitement défendables et légitimes. Toi, tu voulais des exemples de lutte, mais je pense que ce qui se passe à Bure en ce moment, c'est quand même un très très bon exemple. C'est un pari. Il y a un rassemblement entre le 9 et le 11 août, notamment. Il y aura une grande marche aussi de femmes reprendre une tradition de lutte, notamment anglo-américaine, de marche autour de Bure en septembre. Et là, c'est le pari que le problème des déchets est réellement une impasse pour le nucléaire et que donc bloquer la filière du stockage des déchets, c'est essayer de bloquer la chaîne, c'est un pari. C'est pas forcément exclusif, mais je pense que ça, c'est très important. Et aussi, je m'inscris complètement en faux contre ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que pour critiquer la technologie et critiquer en fait le capitalisme par le biais de la technologie, il faudrait faire des années d'études et de méditation en lisant Ellul et Charbonneau. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne jamais rencontrer personne et de ne jamais prendre part à des choses décisives qui changent la donne, quoi. Moi, je pense l'inverse. Je pense que, par exemple, dans la région toulousaine, au cours des 6 derniers mois, il y a eu je ne sais combien d'occupations ou de rassemblements devant Amazon pour bloquer les entrepôts d'Amazon. Il y a eu je ne sais combien d'appels pour bloquer Monsanto et tant d'autres cibles qui sont tellement directement des cibles du complexe industriel dans ce qu'il y a de plus destructeur et qui sont des occasions en or pour faire le lien entre justement les questions écologiques et les questions sociales. Et que c'est là qu'il faut aller, quoi, avant de se demander si on veut créer une communauté technocritique, un petit peu un club. Non, mais du coup, ça me permet de dire autre chose. Et sur cette même question de lien entre les questions sociales et les questions écologiques, bah, y a aussi des mouvements de grève dans le secteur de la logistique. Et dans le secteur de la logistique, des gens qui conduisent des transpalettes et tout ça, c'est vraiment des gens qui se prennent de plein fouet le déferlement technologique et qui en souffrent dans leur travail. Et là aussi, il y a vraiment un travail à faire pour que les mots d'ordre correspondent aux réalités qui sont vécues par les gens. Il y a un sociologue qui s'appelle David Gaborio qui travaille dans Sens. Il y a un groupe qui s'est organisé, qui a notamment beaucoup soutenu la grève chez Géodis, qui s'appelle la plateforme d'enquête militante. Donc ça, c'est important. Et contrairement aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que prendre un sujet, par exemple les OGM, c'est une manière de dérouler la pelote. En fait, je pense qu'on n'a jamais autant parlé du problème des pesticides, du problème des lobbies, des semences et du problème massif de l'agriculture industrielle que depuis que les gens se sont attaqués aux OGM, parce qu'en fait, ça a obligé un certain nombre de gens, notamment urbains, de regarder ces questions et de comprendre que les OGM s'intégraient dans un système beaucoup plus large qui posait problème. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la contestation du modèle agricole industriel a tellement avancé par rapport aux autres, qui ont beaucoup moins avancé, en termes à la fois de critique et en termes d'alternatives. C'est là où le front est le plus avancé pour faire autre chose, quoi. Voilà.